Mais où est donc Ornicard?
La plupart des recherches sur l'école ou sur la question de l'immigration à l'école ont tendance à penser que le problème, c'est la rencontre entre des élèves qui seraient rattachés à une ethnie ou à un groupe immigré, ou etc., rattachés à du passé et à des origines et lointaines ou étrangères, cette rencontre entre ce groupe donc spécial et l'école.
Une émission proposée et présentée par Jean-Louis Riwal.
Il n'y a pas du tout consensus au niveau scientifique pour accepter l'hypothèse de la discrimination.
Aujourd'hui, de l'intégration à la diversité ou les atermoiements de l'action publique, deuxième partie.
Louis-André Vallée et Jean-Paul Caille. Ces auteurs montraient que globalement, il n'y avait pas un échec spécifique des enfants issus de l'immigration, rapporté à la classe sociale, à la classe sociale équivalente, hein, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. Qu'il y avait même pour certains une légère surréussite, ce qui évidemment renversait un petit peu la problématique de l'échec telle qu'elle a été construite depuis les années 60, hein, l'échec des enfants d'immigrés.
Dans un cadre républicain, il est désagréable de reconnaître que les institutions publiques, et surtout l'école, génèrent des discriminations. Discriminations relatives aux origines sociales, mais aussi aux origines géographiques des élèves, surtout ceux héritiers d'une histoire migratoire en provenance d'Afrique subsaharienne ou maghrébine. Ce constat est un tabou difficile à questionner tant il entre en conflit avec l'image surannée que l'on s'est forgée de l'école de la République. Nous retrouvons Fabrice Dume, sociologue qui a coordonné récemment aux éditions de la Documentation française une étude intitulée « Orientation scolaire et discrimination de l'inégalité de traitement selon l'origine ».
Depuis les années 60, on connaît toute une série de travaux qui ont renversé finalement le regard sur l'école et au lieu de mettre en avant son rôle intégrateur à la société, on commençait à poser justement son rôle dans la production des inégalités ou dans la reproduction, c'était la thèse bien connue de Pierre Bourdieu, la reproduction des inégalités. Alors, la particularité, c'est que on a beaucoup travaillé sur ces mécanismes qui font globalement consensus. Hein. Ils sont même reconnus d'ailleurs au sein du corps enseignant, par exemple, qui acceptent aujourd'hui les thèses de la reproduction, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Par contre, ce qu'on a beaucoup de mal à accepter, c'est le fait qu'il puisse se produire des inégalités, on pourrait dire, sur le versant ethnico-racial. C'est-à-dire qu'ils mobilisent des catégories absolument taboues de la race ou de l'ethnie, voilà, des catégories qui posent fondamentalement problème dans l'imaginaire républicain.
Alors vous, Fabrice Dume, comment faites-vous pour interroger ce qui apparaît comme un tabou, une notion qui est très peu soulevée et d'ailleurs très peu identifiable? Parce que lorsqu'on parle d'ethnie, d'origine en l'occurrence, ça peut être perçu de différentes manières.
Alors, les questions ethnico-raciales, globalement, elles peuvent être vues de deux manières. La première manière à laquelle, le plus spontanément, on pense, nous héritons en fait là, d'une croyance, c'est que ethnie ou race sont des caractéristiques premières, essentielles des gens. Voilà. En disant finalement, bon, il est naturel, normal d'avoir une ethnie ou une appartenance de cet ordre-là. C'est ce qu'on appelle une lecture primordialiste, c'est-à-dire qui a tendance à penser que les dimensions ethnico-raciales sont des éléments premiers constitutifs de l'homme. Et dès lors qu'on regarde, et les travaux de recherche résonnent exactement exactement de la même manière, c'est-à-dire que la plupart des recherches sur l'école ou sur la question de l'immigration à l'école ont tendance à penser que le problème, c'est la rencontre entre des élèves qui seraient rattachés à une ethnie ou à un groupe immigré, ou etc., rattachés à du passé et à des origines lointaines ou étrangères, cette rencontre entre ce groupe donc spécial et l'école. Et là, ça pose deux niveaux de problèmes. C'est-à-dire que, premièrement, On fait du problème, si vous voulez, la rencontre entre deux instances différentes, dont on essaye de voir les différences ou au contraire les proximités. Hein, ça génère un angle de vue très particulier. Le deuxième problème que ça pose, c'est qu'évidemment, à travers ce mécanisme qui fait qu'on pense la question de l'immigration ou des origines ou de l'ethnie comme la propriété des individus, en fait, on leur impute une position qu'ils n'ont souvent jamais revendiquée. C'est très clair, quand on dit « jeunes issus de l'immigration », on les renvoie à une immigration qu'ils n'ont jamais revendiquée. C'est bien un travail d'imputation par celui qui regarde, ou par celui qui domine la situation, d'un certain nombre de caractéristiques à des personnes qui, au départ, qui très souvent ne s'y reconnaissent pas.
Voilà.
Va passer derrière nous. En tout cas, c'est une catégorisation d'une population. Comme vous le disiez tout à l'heure, Fabrice Dune, il s'agit d'altériser des catégories.
Oui, alors, ce qui est compliqué avec la question des catégories, c'est que pour pouvoir penser le monde, pour pouvoir vivre, pour pouvoir parler, nous avons besoin de catégories. Nous avons besoin de nommer une chose comme ça, par convention, et puis de la maintenir à peu près dans cette catégorie pour réfléchir avec elle. Évidemment, l'opération scientifique, elle est centrée absolument sur la construction de catégories, qu'on appelle des concepts, voilà, qui vont nous permettre de raisonner. Donc cela n'est pas un problème en soi, c'est même, j'ai envie de dire, une nécessité pour penser, pour vivre, pour se mouvoir dans le monde. Le problème, il devient que par ce mécanisme extrêmement banal de catégorisation, on a tendance à produire, en appliquant cette catégorisation au groupe humain, on a tendance à produire des statuts sociaux. C'est-à-dire qu'on a tendance à produire des catégories qui ont comme effet de fixer des groupes à des places et en leur attribuant un certain nombre de caractéristiques, de paramètres qu'elles sont censées avoir un peu naturellement ou de toute évidence. Voilà. C'est cette opération qui commence à poser problème, et elle pose d'autant plus problème que, évidemment, les caractéristiques qui sont attribuées avec cette catégorisation sont souvent des catégories qui fixent d'un point de vue péjoratif, en tout cas qui vont biaiser notre jugement égalitaire sur ces groupes. Donc on va présupposer qu'ils ont des différences intrinsèques qui justifient de le traiter d'une façon inégalitaire.
Et dans les faits, concrètement, dans l'école, comment cela se manifeste ? Est-ce que, finalement, la catégorisation de certaines populations en fonction de leur origine, est-ce que ça a pour vocation d'accentuer la réussite ou peut-être la ségrégation de ces personnes, de ces enfants ou de ces adolescents ?
Alors, on ne peut pas répondre de manière globale ou uniforme à cette question-là, parce que la catégorisation ethnique, elle peut jouer dans des sens très variables, selon les groupes, selon les contextes, selon les situations. Je vais prendre un exemple qui avait été repéré par deux auteurs du ministère de l'Éducation, enfin qui travaillaient pour le ministère de l'Éducation nationale dans les années 90, qui sont assez connus dans le champ scientifique, qui s'appellent Louis-André Vallée et Jean-Paul Caille. Assez connus parce que c'est eux qui avaient traité, donc au milieu des années 90, le panel, qu'on appelait le panel 95, tous les élèves rentrés en 6e en 1995, qui avait des données plus fines autour des questions liées à l'immigration ou à une image d'altérité. Ces auteurs montraient que globalement, il n'y avait pas un échec spécifique des enfants issus de l'immigration rapporté à la classe sociale, à classe sociale équivalente, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. Qu'il y avait même pour certains une légère surréussite, ce qui évidemment renversait un petit peu la problématique de l'échec telle qu'elle a été construite depuis les années 60, l'échec des enfants d'immigrés. Mais en même temps, ces auteurs pointaient, dès qu'ils faisaient des zooms sur des catégories particulières, par exemple, ce qui concerne les élèves dits asiatiques, ils constataient qu'ils n'avaient pas franchement une meilleure réussite en termes de notes, mais par contre, ils avaient tendance à être orientés de façon plus favorable que d'autres catégories d'élèves.
vers les sciences et les mathématiques.
Notamment vers les sciences et les mathématiques. Et là, joue très probablement un stéréotype qu'on commence à pas mal connaître, c'est-à-dire que les élèves asiatiques sont particulièrement doués pour les maths. Voilà. Et alors, on est purement dans un stéréotype racial qui a été construit notamment à l'époque de la colonisation, hein, pour justifier un certain nombre de traitements coloniaux, dont on hérite là dans une espèce d'imaginaire collectif. Donc ça, c'est un exemple, j'ai envie de dire, qui, on pourrait le dire, à première vue, joue de façon positive pour un groupe social. Bon, après, il faudrait discuter, c'est-à-dire être orienté contre son gré quelque part, même si c'est censé être une meilleure filière, est-ce que c'est positif, hein ? Là, il y a vraiment aussi une réflexion à avoir sur ce qui serait la part positive ou la part négative. Mais par contre, ce qu'on voit aussi à travers un certain nombre de travaux, c'est que cette catégorisation péjorative, par exemple, et notamment du garçon maghrébin, de la figure du garçon maghrébin, hein, je fais référence aux travaux de Nassir Aghenif en particulier, elle joue beaucoup dans un certain nombre de situations qui sont des situations relatives à la sanction, qui sont des situations relatives à l'orientation scolaire.
Très tôt d'ailleurs, hein. On le voit dès le collège que cette catégorie de jeunes, d'adolescents, sont orientés dans les filières techniques ou professionnalisantes.
On le voit même beaucoup plus tôt, même si on ne dispose pas énormément de travaux. Je pense à une étude qui avait été faite en 1978. Alors, on n'a pas d'équivalent aujourd'hui, hein, plus récent, pour voir si ça se pose et comment ça se pose aujourd'hui. Mais en 1978, une étude de Daniel Zimmermann portait sur l'école maternelle et l'école primaire et montrait que...
Alors là, c'est véritablement très tôt, quoi.
Vraiment très tôt, justement.
Dès la maternelle.
Justement, ça ne commence pas au collège, hein. Dès la maternelle et au primaire, il mettait en évidence le fait que les enseignants ont des sentiments d'attraction ou de répulsion, hein, selon ces termes, ces catégories d'analyse, variables selon la classe sociale, mais aussi selon l'origine immigrée imputée aux élèves. Donc on a là l'enregistrement de processus qui effectivement joue très tôt dans les rapports entre les élèves et l'institution scolaire.
Ça veut dire que dès la maternelle, l'action, j'allais dire presque inconsciente des enseignants ou des directeurs d'école a tendance à orienter tel ou tel élève dans la même classe.
Ben, l'effet sur l'orientation... En tout cas, dès ce niveau-là, on ne le sait pas bien, parce qu'on ne dispose pas vraiment de travaux sur ça. Par contre, on sait que ça a des effets sur la façon qu'ont les individus de concevoir leur place à l'école, de concevoir leur disposition à l'égard de l'école, de la volonté de travailler à l'école, etc. Donc la façon d'être traité par l'école a comme effet de fabriquer des groupes qui ont des positions plus ou moins valorisées et plus ou moins proches, y compris affectivement, à l'égard de l'école. Et ça, c'est des mécanismes, effectivement, sur lesquels, ou des systèmes d'explication sur lesquels la majorité des travaux sont relativement aveugles, puisqu'elles vont tenter d'expliquer la distance à l'égard de l'école comme une question de culture, ou comme une question de transmission ou d'héritage lié à la migration. Et là, on voit bien la nécessité de changer d'approche, de changer de regard, pour commencer à regarder ce que l'école fait aux élèves, aux groupes, aux parents, et la façon dont elle les traite finalement à travers ces mécanismes-là. Parce qu'ils ont vraiment des effets extrêmement importants dans la fabrication, hein, des rapports entre l'école et les publics.
La trilogie prend fin et pourtant c'est que le début. Peu de temps, tant à dire sur ce qui pollue et déteint. Promu à n'être que des plébéantes sur lesquelles s'ajoute du poison qui l'alimente fort. Faut l'être, même si notre vie est un désert ou une forêt de béton, avec des pièges de fer, la rage au ventre, on l'ouvre trop.
La question de la mixité sociale est transversale aujourd'hui à la société. Évidemment, on la voit dans l'école et beaucoup de proviseurs, de directeurs d'école ont tendance à mettre l'accent sur la mixité sociale au sein même de l'établissement. Or, on voit que souvent, et je reprends le cas du collège, voire du lycée, cette mixité sociale est souvent mise à mal par un système de filières et de ségrégation et de discrimination au sein même de l'établissement. Est-ce qu'il y a des études sociologiques qui font apparaître cela ? C'est-à-dire que quand on voit un établissement de manière générale, à la sortie de l'école, on peut voir un mélange d'élèves. Et lorsqu'on regarde un peu plus finement, on s'aperçoit que les élèves sont orientés, là pour le coup, en fonction de l'origine visible.
Alors, il y a un certain nombre de travaux qui objectivent le fait d'abord que, j'ai envie de dire, à travers des données brutes, ce qu'on voit bien les uns les autres, douces, c'est que dans certaines filières, et en particulier dans les filières les plus disqualifiées, hein, celles qui ont le moins de valeur dans l'ordre scolaire aujourd'hui, on y envoie tendanciellement plutôt les publics qu'on juge comme les plus indésirables à l'école. Hein, et c'est très souvent des publics, notamment de garçons maghrébins.
Le terme indésirable, en l'occurrence, il est fort.
Oui, il est fort, mais pour moi, il est pas. Il veut traduire l'idée qu'il y a une relation affective aussi, hein, dans ces rapports-là, et que dans le travail enseignant, cette part des affects, cette part du désir pour le travail, cette part du désir pour la relation ou pour l'entrée en relation avec l'autre, elle intervient évidemment. Hein, je fais référence à ce que disait ou à l'étude de Daniel Zimmermann dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que cette relation affective qui se traduit dans la proximité ou de la distance corporelle. Elle est présente inévitablement dans un travail de relation, ce qui est logique, ce qui n'est pas un problème en soi. Hein, mais on voit bien, ça prend aussi des formes comme ça, y compris fantasmatiques, un petit peu de ce qui est désirable ou indésirable. Alors, il y a des travaux effectivement sur la question des filières, et je pense aussi, y compris récemment, au milieu des années 2000, il y a eu quelques études qui ont été faites à partir de la méthode dite patronymique, c'est-à-dire qu'on va classer à partir du prénom des élèves, ou du nom ou du prénom des élèves, là en l'occurrence c'était sur le prénom, des groupes d'élèves à qui on affecte une origine, voilà. Prénom, origine musulmane en particulier, je pense à une étude dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui a été faite sur les filières universitaires. Pour le coup.
Donc post-bac.
Post-bac. Pour montrer en fait que selon le patronyme, les élèves n'ont visiblement pas la même chance, j'ai envie de dire, ou le même droit. Hein, de fait, d'orientation dans l'une et l'autre filière. C'est-à-dire qu'il y a visiblement une variable qui joue et qui s'inscrit au niveau du nom ou du prénom, ou qui est lisible à ce niveau-là, mais qui met en scène effectivement les catégories ethnico-raciales pour dire qu'il y a bien des orientations distinctes, différentes, et qui ne sont pas explicables seulement par la réussite scolaire.
Ni par la classe sociale. Hein.
Et ce faisant, on met l'accent, parce qu'on est sur une logique d'image positive, en fait, on cherche juste à corriger l'image. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir quelques strapontins ministériels ou préfectoraux, hein, préfets musulmans, etc. C'est-à-dire quelques places d'élite réservées à des catégories stigmatisées, ce qui permet d'éviter les critiques liées au processus de discrimination en général. Alors, en disant, mais regardez, il y en a qui réussissent, s'ils veulent bien s'en donner la peine, ils peuvent réussir dans cette société néolibérale. Et donc on a un vrai renversement ici. Alors l'effet des internats d'excellence, etc., il est évidemment celui-là. Il est de sélectionner à partir de l'entrée territoriale ou ethnico-raciale, parce que les premières études qui sont en cours autour de ces questions-là ont tendance à montrer qu'il y a bien quand même malgré tout des effets probablement de sélection de cet ordre ethnico-racial, hein, et qu'on n'est pas seulement d'une question qui serait celle du territoire. On sélectionne effectivement un certain nombre d'élites, ce qui permet de justifier de laisser en déshérence les autres, fondamentalement. Et ce qui est très significatif politiquement, c'est qu'on s'est saisi cette proposition, si vous voulez, d'internat d'excellence, par exemple, elle vient prendre le relais ou être la réponse précisément à une critique des ZEP. C'est-à-dire qu'on est passé d'une politique globale qui visait à essayer de corriger, qui n'y est pas arrivé, pour plein de raisons complexes à expliquer, mais qui n'y est pas arrivé, une politique globale qui cherchait à corriger finalement des effets d'éducation inégale, pour le dire comme ça, à une politique de sélection des élites.
Et c'est probablement parce que c'est probablement plus facile de sélectionner des élèves motivés, on va dire, qui n'enregistrent pas de problèmes particuliers à l'école, plutôt que de s'attaquer au fond du problème qui est peut-être beaucoup plus général d'ailleurs que l'école, qui est le problème d'une société, de son fonctionnement et de mise à l'écart de certaines populations qui ont malgré tout du mal.
C'est plus facile, du point de vue professionnel, c'est plus confortable de travailler avec des élèves sélectionnés, triés sur le volet, dont la proximité avec le garde des normes scolaires semble assez immédiate. Okay, d'accord. Donc ça, c'est une des parts importantes du travail, hein, c'est-à-dire qui s'opère dans le travail enseignant, par exemple, la sélection des élèves.
D'autant plus que la plupart des enseignants ne sont pas formés d'ailleurs à s'interroger sur cette problématique-là. Lorsqu'ils ont le CAPES ou l'agrégation, ils sont formés à transmettre un savoir, à établir un système méthodologique d'apprentissage, mais pas forcément à interpeller les rapports, ces rapports complexes.
Oui, enfin aujourd'hui ils sont plus formés du tout, quoi, ou quasiment. Hein. Donc, je veux dire, je pense que le problème de la formation des enseignants est évidemment une question globale, hein, une question extrêmement forte, extrêmement importante sur ces questions-là. Et on ne travaille pas effectivement à former des professionnels qui peuvent prendre une distance critique à l'égard de leur pratique, qui peuvent construire une distance critique à l'égard du fonctionnement de l'institution et du coup à repositionner leur travail pour essayer de contrecarrer des effets discriminatoires éventuels ou inégalitaires de l'institution scolaire.
Nous concluons ce second volet de l'entretien que nous a accordé Fabrice Dume, chercheur à l'ISCRA, Institut social et coopératif de recherche appliquée. Il est aussi chargé de cours à l'Université Paris 7 Diderot. Il vient de coordonner une étude « Orientation scolaire et discrimination de l'inégalité de traitement selon l'origine » aux éditions de la Documentation française.